19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous retrouver. Vous le savez, on démarre cette semaine avec vous pour commenter, démarrer, décrypter et analyser l'actualité. Alors vous le savez, oui, toujours, comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes ici même. À la fois d'abord au sommaire de cette émission, nous allons direction Trappe. Trappe où, figurez-vous, ce week-end, eh bien une belle star s'est présentée pour inaugurer un cinéma. Hein, dédié à Omar Sy. Omar Sy, il y avait du beau gratin, des stars, clochettes. Hein. Ah, c'est vrai, c'était une brochette de stars d'ailleurs qui sont venus se présenter pour inaugurer ce beau cinéma. Nous en parlerons avec le maire en personne qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Ensuite, après les débatteurs influenceurs, eh bien, ils sont quatre aujourd'hui, quatre qui vont s'emparer de la parole pour confronter leur point de vue. Rachida Kaout est avec nous, qui représente Renaissance, une personnalité qui représente les Républicains, c'est Jonas Haddad. Ensuite, l'élu local de Bondy, apolitique a priori, mais bon. Bah je ne sais pas ce que ça veut dire apolitique. On a toujours une étiquette en général. Hein. Ou sans étiquette, ouais. Bon. Karim Alouache, il est financier. Par ailleurs, il est banquier d'affaires. À ses côtés, journaliste et entrepreneur, c'est Karim Maloum. Voilà, que du beau monde. Ensuite, vous avez vous. 01 53 48 3000. Vous êtes très très nombreux. Vous savez que les audiences sont là. Hein. Franchement, ça fait plaisir, partout en France. Ça vous fait sourire, Jean Lassada.
Bah oui, moi j'aime bien les gens qui réussissent.
Ouais, c'est vrai.
Et on aime faut la
gagner.
Réussite.
C'est soit on est là pour gagner, soit on est là pour évidemment.
Pour gagner quoi?
Non,
pour végéter.
Voilà, juste comme ça, pour. Voilà, par exemple.
Pour exister.
Moi je dirais pas ça, mais juste.
Il y a beaucoup d'audience.
Exactement. Bah oui, on a d'où. Ouais,
donc
ouais,
c'est le moment de réclamer.
C'est pas n'importe quelle émission non plus.
Hein. Oui, ah, là, tu sais.
C'est pas n'importe quelle, c'est modérateur aussi.
On va poursuivre le sommaire. Michel, merci. Michel Taube, tout à l'heure, qui sera avec nous à 19h50. Il est éditorialiste, mais il est également aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Il sera avec nous, il va nous livrer, vous savez, son regard comme chaque lundi, son billet d'humeur, ça s'appelle, et il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler, évidemment, de Glucksmann, qui, selon lui, va tout déchirer. Clochette. Aux européennes, je parle. Bah écoutez, les paris sont lancés.
C'est possible.
Il fait parler.
Mais par contre, il a un adversaire, c'est son secrétaire général de parti socialiste, Olivier Faure, qui s'oppose à lui.
Bon, bah, écoutez, voilà. Et surtout Jordan Bardella. C'est surtout ça. Et les derniers sondages que j'ai reçus par mail, qui sont encore sous embargo, mais je crois que c'est sorti. Jordan Bardella, les amis, ça fait mal. Hein. Il est loin devant Renaissance, Rachida Kaout.
Oui.
Très loin.
C'est les statistiques.
Ça fait flipper.
C'est le chiffre du PS, mais à l'envers, inversé.
C'est les chiffres, si vous voulez, à un moment T, mais après maintenant,
qu'est-ce
les chiffres,
faire, hein, votre,
qu'est-ce qu'on
notre
a pris comme référentiel
Emmanuel Macron, là, il... Non, il n'est pas en panique, là, non?
Bah, pourquoi paniquer?
Quand on voit Jordan Bardella, c'est pas en tête, là, c'est en tête très loin.
Bah oui, c'est un candidat de communication, c'est un candidat pour la com, en fait. Bah, c'est pas un candidat pour des idées politiques, ni un programme politique.
C'est pas juste aussi.
Ouais, mais bon, Rachida.
C'est pas juste l'échec pour
par la com, il y en a un public.
On en parlera.
C'est l'échec des républicains et des socialistes aussi.
Mais les républicains se cherchent encore. Jonas Haddad, je sais pas ce qui se passe chez vous.
Enfin, on se cherche encore, mais pour l'instant, on se maintient dans les sondages que vous évoquez.
Ouais,
mais bon, pas
haut.
Ouais.
Ah oui, si je compare, vous voyez, quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se console. Quand je vois ce que fait ce monsieur Zemmour, moi je suis assez content de voir que son parti est en train de s'effondrer.
Oui, mais quand on voyait le score que donnait les
sondages. Monsieur, on en parle tout à l'heure. Ouais, c'est parti, c'est tout de suite, c'est l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Ah, ça y est, on leur donne le. Vous savez, les politiques, on leur donne le micro, ils se lancent. Hein. On est avec, vous savez quoi?
C'était bien parti. Hein.
On est heureux de l'accueillir. Oui, c'était parti, c'est ce que je dis. On est heureux de l'accueillir. C'est le maire de Trappe, dans le 78. Bonjour, monsieur Ali Rabé. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, monsieur Farkan.
Comment ça va? Vous allez bien?
Très bien, merci de m'inviter.
Mais merci. Qu'est-ce que vous pensez vous n'êtes pas là pour ça, mais qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance? On en parlait pendant le micro, en attendant de vous accueillir justement en direct. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance européenne, là, les élections? Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher maire?
C'est étouffant. Écoutez, on a plus d'un Français sur deux qui se contrefoule cette élection et qui ne s'apprête pas à aller voter. C'est déjà la première inquiétude qu'on devrait tous partager. C'est une forme de désintérêt des Français pour la démocratie, pour l'élection européenne en particulier. Le second élément, c'est évidemment, vous l'évoquez à l'instant, le fait que le Rassemblement National et la figure de Jordan Bardella submergent cette élection. On est quand même à des pointes à plus de 30%. On est à 32% là dans les
c'est
derniers
ça.
sondages que vous
c'est
évoquiez.
Ça. C'est ça.
C'est concomitant avec les élections qui nous indiquent les fonds. que Marine Le Pen serait en mesure en 2027 de remporter tout simplement le deuxième tour de l'élection présidentielle, quel que soit le candidat face à elle pour l'instant. Donc c'est un climat qui, pour le maire ville populaire que je suis, est extrêmement inquiétant, puisque face à cette offre qui a le mérite d'être claire, hein, même si elle n'est pas sérieuse et qu'elle est inquiétante, le reste...
L'écart qui se creuse, hein. Moi j'ai le dernier sondage là, je l'ai sous les yeux, je l'ai reçu par mail. L'écart qui se creuse, 12 points entre le Rassemblement National et Renaissance.
Absolument.
C'est énorme, 12 points.
Ça dit quelque chose du rejet massif. Ça dit quelque chose du rejet massif vis-à-vis de la politique du chef de l'État, puisqu'il est président maintenant depuis, rendez-vous compte, 9 ans, presque 10 ans. Mais ça dit aussi quelque chose de l'incapacité à proposer d'autres alternatives. Et moi, j'en veux beaucoup à mon camp politique, à la gauche, de ne pas être capable de s'organiser, parce que, unis, nous aurions à peu près le même score que l'extrême droite, la même force politique au sein du pays, mais notre unité est l'une des conditions de la crédibilité de notre projet, et il faudra la réaliser après ces européennes, puisque à l'occasion de ces européennes, elle n'est manifestement pas possible.
Vous parlez de la gauche, mais visiblement, je crois que Raphaël Glucksmann réussit plutôt son coup, ou on a le sentiment, monsieur le maire ?
Franchement, à quoi bon ? Enfin, moi, je ne suis pas très fan, je ne vous le cache pas, mais 14% ou 12% ou 11% dans certains sondages, je n'appelle pas ça à réussir son coup.
C'est vrai.
La question, c'est les équilibres.
C'est vrai.
Vous savez, Yannick Jadot, il avait fait 14% à la dernière élection, il s'était vu président de la République, on a vu la suite. Cohn-Bendit et Eva Joly, il y a un peu plus longtemps pour les vieux comme vous et moi, avaient fait 20% aux élections européennes pour les Verts, et on a vu la suite.
On va parler, vous savez quoi, vous avez raison, et merci d'avoir répondu évidemment à cette question. Vous êtes notre invité aujourd'hui parce qu'on va parler du cinéma Omar Sy qui a été inauguré ce week-end, samedi précisément, sur la ville de Trappes, d'accord, dans les Yvelines, en présence de l'acteur, en présence de Jamal Debbouze, en présence de sa femme Hélène, en présence évidemment de personnalités tout simplement politiques, mais aussi autres, qui étaient présentes. Dites-moi, d'abord, c'est tout un symbole pour les habitants venus en nombre, parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux, ils sont venus répondre présents pour assister à l'inauguration.
Ouais, ça c'est autrement plus réjouissant, hein. On était près de 1000 personnes rassemblées là sur la place. Ça, il a plu toute la journée. On a eu un rayon de soleil dans la journée, le moment de l'inauguration. Il y a des petits miracles comme ça. Et un millier de personnes se sont massées. On peut assister à des séances gratuites, hein, de cinéma toute la journée autour de l'œuvre d'Omar Sy, et le lendemain dimanche autour de l'œuvre de Jean Renoir, qui est également une grande figure du cinéma français. Et la surprise, c'était évidemment la présence d'Omar Sy et de Jamel Debbouze aussi, qui est venu assister à ce moment important, symbolique et mouvant pour son ami d'enfance, Omar Sy. On a, vous savez, à Trappes, une petite commune, 33 000 habitants, on a plein de richesses, contrairement à ce que le débat médiatique parfois peut laisser voir. Et on a ce petit miracle dans une ville de 33 000, comme il y en a beaucoup d'autres en Ile-de-France. Eh bien, nous, on a fait émerger des figures artistiques, culturelles, sportives, en nombre extravagant pour une commune de cette taille. Et parmi eux, Omar Sy et Jamel Debbouze. Mais pas que, hein. Sofia Aram, Issa Doumbia, Nicolas Anelka, il y avait plein de figures, Alain Degois, Rachid Benzine, enfin autant de figures intellectuelles, artistiques, politiques, qui font rayonner Trappes, et ce sont des ambassadeurs de Trappes. Et Omar Sy en particulier, on apprend aussi, on a appris hier qu'il était jury du festival. C'est extraordinaire comme trajectoire pour un gamin d'une cité de Trappes.
On a été coupé légèrement, il y a une micro-coupure. Jury du Festival de Cannes, j'imagine, vous disiez, hein, c'est ça, hein.
C'est ça. Ouais. Omar Sy, jury du Festival de Cannes au moment où on se parle, ce qui montre un peu la trajectoire absolument extraordinaire de cet enfant d'un square de Trappes, d'une cité de Trappes, qui maintenant brille à travers le monde, qui est connu dans le monde entier. Là, il est également connu au Japon.
Qu'est-ce que ça représente justement pour les habitants des quartiers populaires, pour les jeunes notamment ?
Une fierté et un espoir. Vous savez, il y a tellement de raisons d'être pessimiste, tellement de raisons de baisser les bras parfois quand on voit l'hostilité, une forme de climat de haine qui est entretenu contre les habitants des villes populaires comme Trappes, qu'on peut se poser la question de sa place, de sa légitimité. Je suis maire de Trappes, je porte l'écharpe bleu-blanc-rouge, et parfois moi-même je me pose la question, tellement cette violence politique qui nous est adressée est injuste et médiatique. Et quand on a des figures de rassemblement comme Omar Sy, vous savez, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit blanc, noir ou arabe ou musulman ou sans religion, etc., voilé ou pas voilé, tout le monde était massé pour honorer Omar Sy. C'est une figure consensuelle, c'est vraiment une figure de la République française qui rayonne dans le monde. Comme d'autres avant lui, comme d'autres après lui. Mais on en est fiers, c'est l'enfant de Trappes et c'est maintenant l'enfant du pays, l'enfant de la France. Et il nous honore. Et on a voulu l'honorer à notre tour, en nommant le cinéma de la ville d'après son nom. Et je crois que c'est un beau symbole. Vous savez, en France, et je l'ai dit aussi en conclusion de mon discours, On n'a pas beaucoup de noms de rues, de noms d'édifices publics qui viennent honorer des trajectoires différentes qui font la richesse de ce pays. On a souvent les mêmes noms, on retrouve les mêmes noms de rues d'une ville. Ce qu'on a voulu justement, c'est l'art de, vous savez, on appelle ça l'autonomie, c'est comment est-ce qu'on nomme nos rues, nos places, nos bâtiments. Ben, on a voulu que ce soit aussi une traduction de la reconnaissance que la République, ici la République au niveau municipal, mais la République a pour tous ses enfants, d'où qu'ils viennent, et d'où que viennent leurs parents surtout. Omar Sy, moi, vous, probablement, on est nés en France. On est des Français, indéfectiblement, on ne nous l'enlèvera pas, quoi qu'on en dise, et on est des Français, et c'est bien que nous, on reconnaît la France naturellement, puisque c'est notre pays et notre patrie, mais de temps en temps aussi, c'est important que le pays, ses communes, reconnaissent les enfants de la République, et nous, on a considéré qu'il n'y avait aucune raison d'attendre le décès d'Omar Sy pour l'honorer, c'est de son vivant qu'on a voulu le faire, et il a dit que la boucle était bouclée, qu'il avait commencé très jeune, il avait découvert le cinéma avec ce cinéma municipal, et aujourd'hui il lui donne son nom, donc il a le sentiment d'une forme d'accomplissement qui mérite d'être honoré, et qui servira, j'espère, quelque part d'exemple à d'autres gamins qui grandiront en passant devant ce cinéma et en franchissant ses portes.
Je n'en doute pas un instant, effectivement, ça peut que servir d'exemplarité auprès des gamins et des jeunes des quartiers populaires, effectivement, vous l'avez dit. Écoutez, bravo pour ce cinéma qui a été inauguré par Omar Sy, et ce week-end d'ailleurs. Merci monsieur le maire. Vous avez un message adressé à ceux qui nous écoutent, notamment en parlant de messages d'espoir?
En conclusion, on ne sera pas tous stars internationales du cinéma, on ne sera pas tous forcément connus à la télévision ou des vedettes, mais par contre, on peut tous être médecins, ingénieurs, pompiers, boulangers, on peut tous avoir son parcours de réussite personnelle. Et la réussite, ça se définit pas par le nombre d'années de diplôme ou par le nombre de followers sur Instagram, mais c'est l'accomplissement en choisissant sa vie, en ne la subissant pas. Donc il faut ouvrir des fenêtres d'espoir, voilà, d'opportunités pour tous les mômes, et en particulier pour les mômes. Quartier populaire, on s'y attelle, et même ceux qui en prennent plein gueule toute la journée, qui en ont marre, qui parfois dépriment, gardez de l'espoir. Ce pays, il est magnifique, il ouvre des opportunités, il faut qu'on change ensemble. Et à la fin, c'est ni M. Bardella, ni M. Zemmour qui gagneront, c'est nous, parce que c'est nous la France.
Merci pour ce message d'espoir, Monsieur Ali Rabet, maire de la ville de Trappes dans le 78. Merci Monsieur le maire d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est un plaisir, au plaisir de vous retrouver. C'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Je commence par la seule femme qui est avec nous. Elle est élue sur Ivry-sur-Seine. Elle est également la représentante de Renaissance. Donc prudence à vous tous, hein, dans ce que vous allez raconter. Je vous le dis tout de suite. Hein, parce qu'elle, elle ne se laisse pas faire. Elle s'appelle Rachida Kaou. Bonjour Rachida.
Bonjour, bonsoir à tous.
Ça va.
Je voulais réagir sur ce qu'a dit monsieur le maire de Trappes.
Allez-y. Il est parti là, ça y est. Hein, mais allez-y, réagissez.
Mais vraiment, il a bien tout résumé. En même temps, ce n'est pas une histoire d'appartenance à un parti politique ou à un autre. Ce que je veux dire, c'est que si tous les maires de France raisonnaient comme lui, honnêtement, on avancera énormément
comme
sur
lui, le maire de Saint-Ouen, il est comme ça aussi.
Oui, mais que ça se diffuse vraiment de manière massive. Ça évitera d'avoir ces montées justement des partis d'extrême droite et puis aussi de tous ces manipulateurs qui montent les populations les unes contre les autres. Donc je voulais vraiment rebondir sur ce qu'il a dit et dire que en réalité, il faudrait que tous les élus de France, tous les maires de France diffusent ce message et mettent en valeur des gens issus de
l'immigration. Monsieur le conseil régional, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous faites vous allez
non,
à mitiger je,
non, mais je
elle a raison Rachida Kaout.
Non, mais elle a raison, mais parce qu'en fait, derrière tout ça, il faut quand même nos auditeurs le sachent. D'abord, Monsieur Rabé, c'est bien, il fait de la politique, il est issu de la gauche. Et le message est intéressant, mais ce que vous dites est pertinent et c'est pour ça que j'y souscris. Vous dites il faudrait raisonner comme lui. Raisonner comme lui, moi, ça ne me dérange pas. En revanche, quand on regarde ce qui se passe et qu'on ouvre le couvercle de ce qui se passe à Trappes, il ne faut pas que l'arbre Omar Sy cache la forêt quand même de la dégradation de cette ville, de la communautarisation qui se passe dans cette ville, du fait qu'il y a des taux de pauvreté qui sont incroyables, et j'irai même plus loin, du fait que la gauche a mis sous une forme de coupole de misère des gens qui se trouvent dans ces quartiers-là. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'histoire de la gauche dans ces endroits-là, là, je suis content parce qu'au moins Omar Sy, Omar Sy, c'est un Français. Mais avant, vous aviez des boulevards Lénine, des boulevards Staline, des endroits dans lesquels le Parti communiste tenait sous sa coupe des endroits entiers et qui ont fait que ces endroits ne se sont pas développés. Donc c'est bien. Les symboles, c'est intéressant. Dans la vie, il n'y a pas de sujet. Et donc vous avez raison, peut-être que sur le raisonnement, c'est intéressant. Mais la réalité du bilan de ce maire-là...
Il n'est pas communiste, lui. Il est plutôt de gauche.
Non, même bien de gauche. Ouais. Voilà. Ouais. La réalité, c'est que ces endroits-là se dégradent et que la belle diversité et la belle richesse culturelle qu'il évoquait, ben elle a maintenant 30 ans. Parce qu'Omar Sy, il n'est pas tout jeune. Et Jamel Debbouze, il n'est pas tout jeune. Nicolas Anelka, il a 40 ans. Et les Nicolas Anelka d'aujourd'hui, les Jamel Debbouze ou les Omar Sy, à Trappes, je pense que ce serait plus compliqué.
Non, mais c'est un problème de société aussi, ouais, ce que vous décrivez.
Oui, bien sûr, un véritable.
Dans ce cas, il n'a aucun pouvoir.
On fait un tour de table. Karim Alouage, bonjour. Il est banquier d'affaires, mais il est également aussi l'élu de Bondy. Bonjour.
Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu.
Oui.
Ça me fait un peu sourire de critiquer les communistes. Moi, si j'ai le parcours que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, Aubervilliers. Alors, c'est pas ceux d'aujourd'hui, effectivement, parce qu'ils nous ont apporté l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès au voyage, la gratuité sur tout ça. Et si j'avais pas rencontré ces gens-là, gamins, je pense que j'aurais pas le même parcours maintenant.
Ce qui m'intéresse dans le discours,
c'est j'entends, on est toujours content quand quelqu'un d'adversité, c'est un footballeur ou un acteur. Mais ça, c'est pas la vraie vie et c'est plus exceptionnel. Vous avez plus de chances de faire une grande école que de devenir une star du cinéma ou du football. Il faudrait un peu songer à mettre en valeur, y compris pour les partis politiques, qui le font très rarement. Ouais. Les personnes qui ont des parcours normaux, éducatifs, qui font des carrières et qui agissent dans leur quartier.
On le fait régulièrement. Karim Maloum, bonjour.
Oui, le discours, parle d'une pratique, d'une certaine gauche, mais c'est une gauche républicaine, laïque, sociale, humaniste. Mais la gauche d'aujourd'hui, elle est communautariste, une grande partie, elle est communautariste, elle est racialiste. Et les gens qui habitent dans ces quartiers, il faut aller les voir, c'est pas vrai. Le trafic de drogue domine, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses, les gens quittent les quartiers. Donc il faut dire qu'il y a la paupérisation dans ces quartiers. Donc c'est beau de dire qu'on a un message d'unité et développé. Mais quand il faut faire l'union de la gauche, moi je ne ferai jamais l'union de la gauche avec la gauche Hamas, avec les gens qui soutiennent, qui considèrent que la Hamas est un mouvement de résistance, qui demande à faire l'intifada en plein Paris, ils demandent à la guerre civile. Non, d'alliance à faire avec ces gens-là.
Je pose une question au maire de Trappes. Est-ce qu'il y a une seule des personnes qu'il a citées qui vient encore à Trappes?
Aucun.
Qui se pose la question?
Aucun.
Même question, mais peut-être leurs parents. Les parents, peut-être.
Ouais.
Les parents,
oui, les familles sont toujours là.
On lance une pause et on se retrouve tout de suite après, justement, pour lancer les débats.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, je vous le disais tout à l'heure, avec Rachida Kaout, avec Jonas Haddad, avec Karim Maloum et enfin Karim Alouache. Messieurs, mesdames, madame, messieurs plutôt, nous allons parler de Sciences Po. Alors, Sciences Po qui dit clairement aujourd'hui, on demande la justice pour la Palestine et on nous envoie la police. La manifestation, les rassemblements pro-palestiniens, beaucoup réagissent, ça fait beaucoup de réactions. Et alors, certains aussi que disent, mais attendez, c'est l'histoire aussi de Sciences Po, c'est toute une symbolique, c'est la symbolique de Sciences Po, ça s'est toujours inscrit dans l'histoire, ça date pas d'aujourd'hui. Rachida Kaout, parlons-en. Tiens, à vous la parole.
Oui, aujourd'hui, moi je vais le répéter, ce que je déplore, c'est l'importation. L'importation, finalement, d'un conflit où je suis persuadée que si on interroge ces étudiants, eh bien, ils ne savent même pas quelle est l'origine même du conflit israélo-palestinien. Et c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui. C'est ce qui m'interpelle. Non, c'est pas une histoire d'idées, en fait. C'est ce qui m'interpelle et c'est ce qui est en même temps un danger. Parce que moi, des lieux comme Sciences Po ou des universités lambda, ce sont des lieux où on débat. Ce sont des lieux où on échange. Ce sont des lieux où on essaie de comprendre qui est l'autre.
Mais il n'y a pas de débat, Sciences Po.
Mais justement, ce sont des lieux. C'est ce qu'il devrait y avoir. Ce sont des lieux où l'élévation intellectuel en fait apporte des solutions. Et moi aujourd'hui,
on va prendre le temps d'en parler.
Je refuse.
Parce que toute la classe politique a réagi.
D'avoir, si vous voulez, des étudiants qui sont, pour moi, à mon sens aujourd'hui, manipulés et qui, vous savez, quand j'étais étudiante à l'université, on avait exactement aussi ce fameux conflit israélo-palestinien. On avait aussi ces manifestations de boycott. J'étais à la Sorbonne, donc on avait les bancs de la fac.
La Sorbonne, qui était, connaît ça aussi, la Sorbonne.
Oui, bien sûr, on a vécu ça. Mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que c'était différent, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'était différent.
Lorsqu'ils font
mais on débattait et on essayait de comprendre en réalité c'était quoi le problème.
Pas comparer la Sorbonne à Sciences Po, c'est pas la même culture.
Toujours pas ce que c'est le problème.
C'est pas la même culture.
Je peux vous donner un scoop.
Non, mais c'est important à dire ça.
Ah oui, bien sûr. Jonas Haddad.
À part les élus de la France insoumise, il y avait un seul autre élu qui est allé physiquement devant Sciences Po, c'est votre serviteur. Et je me suis rendu à Sciences Po vendredi soir.
Ah.
Avec mon écharpe de la région parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Et je peux vous assurer que ce qui se passe à Sciences Po, pour avoir discuté avec les élèves par la suite, c'est vraiment la faillite de ce qu'on appelle l'élite.
Racontez-nous de façon
En fait, c'est
objective.
Très simple. Gabriel Attal avait eu un mot juste, le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire que cette école, qui était l'école de l'élite, qui demain va former les cadres de notre pays, qui vont être des dirigeants, des hauts fonctionnaires, etc., est totalement envahie par une pensée d'extrême gauche. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon... Oui, c'est une minorité. Et vous savez pourquoi c'est une minorité ? Parce qu'en interrogeant les étudiants de Sciences Po, ils m'ont dit qu'il n'y avait seulement que 40 étudiants de Sciences Po qui bloquaient réellement la fac, et que tous les autres autour, les Coquerel, les Panot, les Boyard, toute la clique là, plus les militants professionnels d'extrême gauche, j'ai vu des étudiants qui avaient 60 ans quand même. Donc bon,
ça a toujours été de gauche.
Oui, d'accord, mais pour le coup, ils sont venus bloquer. La semaine d'avant, Jean-Luc Mélenchon faisait une conférence dans laquelle il était accueilli comme une star. Et la semaine d'avant encore, dans une conférence de soutien, il y avait des étudiantes qui étaient suspectées d'être de confession juive, qui avaient été exclues. Si j'ajoute à ça les démissions de trois directeurs successifs, le fait qu'aujourd'hui, on demande à des gens d'écrire en écriture inclusive dans leur copie, vous savez, cette écriture qui est très militante, dans leur copie à Sciences Po. Cette école est rongée par une idéologie qui est mortifère, qui provoque la division de notre pays. Et donc, j'étais le premier, vendredi soir, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter, j'étais le premier à demander à ce que cette école soit mise sous tutelle du gouvernement.
Non, mais on ne peut pas mettre tous les
d'ailleurs, La personne de Renaissance, c'est quand même incroyable. Monsieur Macron, quand il veut réformer l'ENA, il le fait. Il change l'ENA, il supprime l'ENA. Et il se passait
tout
rien.
Tout le monde parle de mettre Sciences Po sous tutelle depuis ce matin. Vous étiez le premier. Voilà. Depuis ce matin,
Il faut mettre cette école sous tutelle. Et d'ailleurs, je salue Valérie Pécresse qui a coupé les subventions.
Bon, ben c'est bien, tu vois. Au moins, il fait de la politique et c'est clair. Moi, je trouve les propos de Valérie, ces propos-là, moi, je les trouve tout simplement scandaleux parce que je suis très, très attaché à la liberté. Et à un moment donné, on ne peut pas avoir un double discours en fonction des sujets. Parfois, c'est on a le droit de débattre de tout et parfois, on n'a pas le droit. Il faut appliquer les règles pour tout le monde. Quand la région, quand les élus viennent se mêler et font de l'ingérence dans la gestion de cette école, comme d'une autre fac, parce que il n'y a pas que Sciences Po qui forme des élites et de très loin. Et les étudiants de Sciences Po sont des gens extrêmement avisés. Ne les sous-estimez pas en les évaluant. Moi, j'ai enseigné à Sciences Po jusqu'en 2015. Et sont des gens extrêmement
ça a beaucoup changé.
Avisés. Mais moi, ce qui me dérange dans cette affaire, il y a une chose qui me dérange, c'est cette ingérence, cette interdiction.
Non, mais
laissons faire les gens. Moi, j'ai été étudiant à la Sorbonne.
Nous sommes dans un état de droit.
On a fait des manifs. On a eu des bagarres. Il y a eu des descentes. Mais à un moment donné, il faut. Moi, je trouve que dans ce pays, il y a une atteinte.
Tout mettre sur l'extrême gauche.
Voilà, exactement. Il y a une atteinte forte à la liberté. Et ça devient grave, parce que quand on touche à votre liberté d'expression
et la liberté d'étudier,
c'est quoi l'étape suivante? On a fait nos études, on a eu des manifs.
Moi, j'étais contre le blocage.
J'étais étudiant à l'époque de Devaquet, 3 mois de blocage de la fac.
Moi, je suis pas pour.
On avait cette liberté
des classes sociales
de défendre
plus,
les
plus
droits.
Pauvres de s'en
laisse
sortir.
Les gens des classes sociales se gérer eux-mêmes.
Mais j'en fais partie. Si, moi j'en fais partie.
Ni leur porte-parole. Mais peu importe. Donc, moi je ne parle pas au nom des classes sociales.
C'est la politique, c'est
les leçons. Les leçons des bourgeois de gauche de Sciences Po, je m'en fous en fait.
Laissez les gens.
Mais c'est pas ça, c'est que depuis deux jours.
Nous sommes dans un état. C'est à mon tour de parler.
Non, mais vous le dites.
Laissez les gens s'exprimer.
Ne vous inquiétez pas. C'est mon rôle, Karim. Ne vous inquiétez pas.
Il y a un point.
Je suis là pour ça. Je suis là. C'est mon rôle, ne soyez pas frustré, Karim, je suis là pour ça. Je laisse prendre part, parce que sinon, après, ça fait école, sinon. Ouais, tiens, laissez-moi, vous inquiétez pas, Karim.
C'est Adil qui dit ça.
Mais j'ai rien dit, mon cher Adil.
Non, ce que je voulais dire, c'est que historiquement, déjà, depuis l'après de Gaulle, c'est connu, on a distribué un peu tous les postes, que ce soit donc la justice, le pouvoir, etc. Et l'enseignement, la culture, le livre, etc. On a laissé ça à la gauche. À l'extrême gauche. Et aujourd'hui, on se pose des questions en se disant et tout. Bah, tiens, les communistes, l'extrême gauche, les insoumis.
Je la laisse.
Oui, on l'a compris.
J'ai passé 3 jours à Sciences Po. J'ai passé 3 jours à Sciences Po.
Comme jeunesse.
J'en ai fait 4 par pied. Okay. J'ai discuté avec beaucoup de monde. J'ai vu des hommes politiques, des journalistes, j'ai vu des étudiants. Ce que j'ai vu, Mais je n'ai jamais pensé une seule fois de ma vie, depuis que je vis 30 ans en France, que je pouvais entendre un discours de haine violent, un discours méprisant. C'était un discours raciste, antisémite.
Mais non.
Je peux terminer.
Raciste, j'étais présent.
Bien sûr, les étudiants ont tenu, ont tenu des discours. Ouais. Ils ont exclu des étudiants juifs. Ils ont occupé des locaux d'une manière violente. Ils ont fait des saluts nazis. Ils ont mis les drapeaux palestiniens.
Mais c'est pas de l'antisémitisme.
J'ai vu ça. Vous avez vu des saluts nazis.
Je vois. En fait, je vois à quoi il fait référence. C'est pas des saluts nazis, mais on a vu. Vous savez les mains rouges.
Il y a eu des choses. J'étais présent.
Les mains rouges, oui.
Mais l'interprétation.
Vous avez raison. Laissez-le parler. Allez-y. Allez-y, Karen.
Je les ai vus. Si je ne les ai pas vus, est-ce que quelqu'un était sur place? Moi, j'ai été sur place. Il y a un mélange entre le sang et le salut nazi. De manière volontaire qui a été fait. De manière volontaire. Après, si chacun peut interpréter. Mais c'est dans une université française. Dans une université française, on empêche même d'étudiants de rentrer. Une minorité de 40, 50, 60%, 60 personnes qui étaient là. Il n'y avait que les mélanchonistes. Il y avait des gens qui sont là à défendre le Hamas, à dire que le Hamas est un mouvement de résistance.
Attendez, vous avez lancé un débat.
Oui.
On va en parler. Vous avez terminé ou pas?
Oui, j'ai terminé si vous voulez.
Allez. Karim et Rachid Kaoui, ils ont
juste deux mots.
Réagissez.
Dans toutes les grèves et les blocages de fac, c'est toujours une minorité. Là, il y a deux ans, quand il y a eu les grèves à la Sorbonne, et je sais de quoi je parle, parce qu'à l'époque, mon fils était encore à la Sorbonne, c'était quoi? C'était une trentaine d'étudiants qui bloquaient. Et on n'en a pas fait tout un cinéma, et on n'a pas dit derrière, on va arrêter les subventions à la Sorbonne. Donc, je pense que ça a toujours existé. Moi, j'étais étudiant en 86, Malik Ousekine, Devaquet, etc. Et il y avait des mecs qui venaient, qui nous emmenait. D'ailleurs, il y en avait un qui s'appelait Emmanuel Valls, parce que j'ai été étudiant à son époque et qui est devenu quand même Premier ministre de la France. Donc, arrêtons de stigmatiser les institutions françaises. Si vous estimez, vous, d'ailleurs, vous êtes qui pour estimer que Sciences Po n'est plus une école d'élite, eh bien, les grandes entreprises arrêteront de les recruter.
Ça commence,
et les grandes écoles en
Pourquoi
France.
Pourquoi vous dites que ça commence? Attendez, dites quelque chose quand même d'important.
C'est intéressant.
Il dit que ça commence.
Moi, j'ai vu des
c'est
étudiants à Sciences Po vendredi soir qui m'ont dit, depuis que la fac a suivi ce virage indigéniste et wokiste, nous trouvons de moins en moins de jobs parce que notre diplôme est dévalorisé. Et d'ailleurs, si vous interrogez.
Mais pourquoi indigéniste?
Pourquoi indigéniste? Oui. Ben, je vais vous donner deux exemples.
Oui, c'est vrai, parce que les propos, je les trouve forts quand même.
Eh ben, je vais vous donner deux exemples. La première, c'est que dans le communiqué de presse de la direction de Sciences Po après vendredi soir, il a été envisagé de ne plus faire aucun partenariat avec les universités israéliennes. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on a supprimé pour l'entrée à Sciences Po le concours de culture générale pour favoriser des quotas pour représenter un certain nombre de quartiers sans même demander un quelconque concours. Donc, ceux qui visent...
Ah, mais ça y est, on y vient, les fameux accords avec les zones... C'est honteux ce que vous dites. C'est grâce à ces accords qu'on a supprimé cette sélection à la gueule.
Mais vous n'avez pas eu besoin de quota, vous. Vous avez réussi sans quota.
Non. Alors c'est une réalité.
Est-ce qu'il y avait des quotas?
C'est ça ce qui vous dérange.
Parce
que les étudiants qui viennent des quartiers, qui font leurs études à Sciences Po, sont des étudiants extrêmement brillants.
Dans l'ordre. Et
franchement, il faut le souligner.
J'ai touché un point sensible, s'il vous plaît. Foutez la paix aux étudiants. Parce que ni vous ni moi, on a eu besoin de quotas pour bosser et pour avoir des bons jobs. Et là, j'ai touché un point parce que je trouve qu'aujourd'hui, la méritocratie à la française, qui n'est pas la méritocratie à l'américaine dans laquelle on fait de la discrimination positive, ça vous rend hors de vous.
Mais la méritocratie à français, elle n'existe pas.
Ah bon?
C'est parce que moi, j'ai eu énormément de chance et je fais partie du 0,001% qui en a chié. Mais c'est pas parce que moi j'en ai chié qu'on doit continuer. Parce que je vais vous dire une chose, parce que vous avez pas l'air d'être conscient de ce qui se passe et c'est normal, vous n'êtes pas concerné.
Ah bon?
Quand on est concerné,
qui vous dit ça?
Vous connaissez pas son histoire.
Tu sais très bien. La sélection faciale
de demander à valoriser
la sélection
des profils issus de personnes
mais
qui ont du mérite.
Mais justement, mais oui, mais
donc,
justement.
Donc arrêtez de vouloir des quotas, on n'est pas aux États-Unis.
La sélection,
ici.
Mais moi je suis favorable à ces quotas-là.
Mais
vous rappellerai une chose, c'est grâce à ces quotas qu'on a élevé la femme dans les grandes entreprises. C'est grâce à ces quotas qu'on a imposé des femmes au bord des entreprises
vous,
du
cadre.
On va se calmer,
Karine.
On va se calmer.
Vous mélangez
tout, là. Mais là, vous mélangez tout.
C'est une discrimination.
Juste, on revient un peu à ce qui se passe.
Et on va se calmer. Il faut que ça redescende un peu.
Ce qui se passe à la Sorbonne, mais dans d'autres universités aussi. C'est qu'on a vu un discours wokiste qui a triomphé. On a vu un discours indigéniste. Et je signe, je persiste. Je vais indigéniste racialiste. Je signe, je persiste. J'ai vu aussi un discours d'exclusion contre la direction.
C'est son point de vue que voulez-vous que je vous dise.
Je le dis, je le répète. Quand la direction de la Sorbonne, qui est disqualifiée de gérer cette école, décide de rompre les partenariats avec Israël, comment on peut appeler ça? Comment peut-on appeler ça? Aujourd'hui, plusieurs fondations ont décidé déjà de couper les vivres à cette école, dont la fondation Jean-Paul Fitoussi. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional, et je souhaite que l'État
décide aussi de prendre en charge. Très grave.
De prendre en charge cette université. On ne peut pas laisser une université française.
Elle vous parle, elle vous dit que c'est très grave.
Non, mais elle peut dire que c'est très grave. Il faut prendre les moyens nécessaires de rendre l'université son espace de débat, de réflexion et de recherche. Mais c'est pas un affrontement.
Au détriment
politique.
D'une petite minorité.
Mais attendez, c'est la minorité.
Vous savez quoi? Imaginez que dans une école soutenue par l'État, d'accord, il y a des gens d'extrême droite.
C'est l'argent des contribuables.
Attendez. Il y a des gens d'extrême droite qui viennent.
Je vais vous dire une chose.
Vous pouvez pas parler tous en même temps parce que l'auditeur.
Ah oui, c'est vrai.
Je vous le dis clairement, il a beaucoup de mal à vous suivre. Franchement, écoutez-vous, s'il vous plaît, respectez-vous. Le réalisateur, il en peut plus. Non, mais c'est vrai parce que l'auditeur, il se plaint. Jonas Haddad.
Je dis juste, imaginez que des militants d'extrême droite investissent une école, bloquent l'école alors qu'ils ne sont pas en grande majorité, c'est quelques-uns, et ils ramènent des groupes un peu fachos autour des groupes identitaires, qu'ils pavoisent l'école, excusez-moi, on est en France, d'un drapeau étranger. J'étais à Sciences Po vendredi, je vois des drapeaux partout sur l'intégralité de la façade. Et vous ne seriez pas choqués?
On marque une pause. Je vous donne la parole. On marque une pause. 01 53 48 3000. Tiens, les auditeurs ont la parole et je voudrais vous entendre exprimer évidemment votre point de vue. Et je vous redonne la parole aux deux Karim et à Rachida Kaoui. Il faut qu'on avance aussi. Il y a Mathilde Panot demain qui lance un rassemblement. Alors, est-ce que c'est quoi? Comment il faut l'entendre? C'est le chaos après moi ou avant moi ou voilà, on va en parler.
C'est de la poudre aux yeux.
Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h41 01 53 48 3000. Les informés avec Rachida Kaout, l'élu de Divry-sur-Seine, avec le conseiller régional du côté de la Normandie, Jonas Haddad. L'élu de Bondy, c'est Karim Alouache, banquier d'affaires, mais également aussi le journaliste et l'entrepreneur Karim Maloum. Tiens, Sarah qui nous attend depuis tout à l'heure, Sarah, qui nous appelle de Paris. Les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, Sarah, on l'accueille. Bonjour, bonsoir, Sarah.
Oui, bonsoir, Ferkin. Donc, moi, je suis vraiment très outrée par ce que je viens d'entendre.
Alors, dites-nous, outrée par quoi et par qui?
Par l'ensemble de vos invités.
Oui.
Je trouve que c'est un peu fort ce qui s'est dit sur,
oui.
Sur les
vous avez
l'école.
Raison. On vous écoute.
Polytechnique,
oui.
Et voilà.
Sciences Po, c'est pas Polytechnique.
Plutôt Sciences Po, excusez-moi. Et moi, je comprends pas. Il y a eu des sanctions quand la Russie elle a attaqué l'Ukraine. Il y a eu tellement de sanctions. Toutes les semaines, la Commission européenne se réunissait pour infliger des embargos et des sanctions à la Russie. Là, il y a eu l'attaque d'Israël. Eh ben, personne. Les enfants, ils sont tués, ils sont affamés, et personne ne parle. Et on veut, les politiques n'en parlent pas. Les médias mainstream, ils ont parlé 5 minutes pendant, je sais pas moi, quelques mois. Jamais ils en parlent de ce qui se passe en Palestine. Et là, on voit des gens qui disent, parce qu'il y a eu des futurs politologues dans qui sont outrés, qui réclament l'arrêt des
ce que j'entends, ce que Sarah de Paris, Sarah, ce que j'entends,
même sujet, gens, là. C'est
non mais j'ai compris, Moi, ce que je comprends de ce que vous dites dans vos propos, c'est qu'il y a deux poids deux mesures. C'est ce que j'ai compris en amont. C'est ça, j'ai compris. Jonas Sadat, ça tombe bien, il est avocat. Jonas Sadat. Non mais vous allez tous répondre.
Ils sont tout à fait d'accord.
Oui.
Sarah,
alors attendez. Karim Alouache, non, il n'est pas d'accord du tout. Karim Alouache, il est comme vous. Il est comme vous.
Sarah.
Alors, Jonas Sadat vous répond.
La première chose, c'est que nous sommes français et que comme nous sommes français, évidemment, s'il y a des sanctions, par exemple, vous parlez de la Russie et de l'Ukraine, c'est important de se positionner d'un point de vue international, mais ça n'a pas impacté nos facultés. Vous n'avez pas vu de facultés qui ont été.
Mais je vous réponds. Laissez-le finir, Sarah.
Vous n'avez pas vu de facultés qui ont été bloquées pour soutenir les Ukrainiens.
Bon. Bah, aux États-Unis, il y a bien des facultés, beaucoup de facultés qui soutiennent la Palestine.
Oui, mais
alors,
madame.
Pourquoi pas ici.
Mais,
du moment que les politiques ne se positionnent pas.
Vous...
Les politiques ne se positionnent
mais,
pas.
Mais sont, madame,
je trouve que c'est tout
mais,
à fait normal
si, mais si.
Que les Palestiniens
madame,
soient morts.
Madame,
on dirait, ils ont dit que c'était des animaux.
Personne ne trouve ça. Personne ne trouve ça normal.
Laissez-le répondre. Laissez-le
c'est
répondre.
Juste que,
s'il vous plaît, Sarah.
C'est juste que comme nous sommes en France. On a un équilibre à trouver et que l'équilibre, c'est comme dans Russie-Ukraine, on n'a pas à être aligné sur la politique d'un gouvernement. On fait de la politique au niveau international.
Vous êtes aligné
mais...
sur la politique d'Israël.
Madame, on n'est pas aligné sur la politique.
Mais alors,
qui a bloqué, qui
non,
a bloqué
non, non,
des facultés pour les Ukrainiens?
Non.
Ça n'existe
madame,
pas. Regardez, je reprends votre exemple,
mais
madame.
Karim, attendez,
mais,
Sarah, attendez ça. Fait...
Le gouvernement, dès le début, il est avec l'Ukraine. Donc, il n'y avait, avait pas de possibilité pour que les gens se mettent.
Alors, Karim Maloum vous répond. Karim Maloum. Karim Maloum. Karim Maloum vous répond.
Chère madame, je pense on est pour l'existence de deux États, un État palestinien, un État israélien. On est pour la paix. Il n'y a aucun souci, madame. Par contre, en nous dénonçant uniquement les gens qui considèrent que le Hamas est une organisation de résistance, les gens qui justifient le pogrom du 7 octobre, c'est des criminels, ce sont des terroristes, ce sont des islamistes, ceux qui ont déclaré la guerre. Je pense, le problème de la Palestine, du Gaza qui se pose aujourd'hui, il faut une solution. Les seuls, madame, qui refusent, les seuls qui refusent de venir à la table des négociations, c'est le Hamas. Aujourd'hui, Israël...
Non, non, c'est Netanyahou qui refuse.
Aujourd'hui, on a mis même sur la table, et Netanyahou l'a mis aujourd'hui sur la table, il n'y aura pas d'attaque sur Rafah. Il n'y aura pas d'une attaque à une condition. Tu libères une partie des otages. Mais le Hamas ne veut pas libérer les otages, madame.
Non,
tant
que
tu ne libères pas les otages, la guerre ne s'arrêtera
pas. Là, c'est les médias mainstream. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai.
Donc, Rachida. Rachida Kaout.
Oui, bonsoir madame, merci pour votre intervention. Ce que je tiens quand même à souligner, c'est que aujourd'hui, vous avez deux peuples qui sont en train de souffrir de cette situation. Le premier, donc les Israéliens, qui ont été attaqués le 7 octobre, avec des familles qui ont été enlevées, des enfants, des grands-parents, etc. Je pense que là-dessus, on est tous unanimes pour dénoncer ce qui s'est passé. Et vous avez le peuple palestinien qui souffre aujourd'hui, si vous voulez, eh bien, de la folie furieuse, si vous voulez, d'une justice qui aujourd'hui en fait ressemble à une vengeance. Vous voyez, vous avez même les Israéliens et les Juifs sont en train de dénoncer ce qui se passe. Évidemment que nous ne voulons pas ces massacres, nous voulons que ça s'arrête et que nous trouvions une solution aujourd'hui à cet État pour qu'il puisse être divisé en deux, un État juif, un État israélien, un État palestinien.
Les Israéliens ne veulent pas de ça.
Mais non, madame.
Je ne parle pas des Juifs, je parle des Israéliens.
Oui, non.
Des sionistes.
Alors, vous savez, madame, là, on mélange.
Là, on est parti sur un autre sujet, là. On est parti sur un autre sujet. Alors, si vous voulez, Sarah, attendez, je vais quand même recadrer. C'est un autre sujet. Là, on s'est un peu éloigné. Évidemment, je vous ai laissé l'aborder chacun à tour de rôle. On l'abordera, Sarah, cette question-là. Vous savez, elle fait partie, évidemment, de façon récurrente chez nous ici. Karim Alouache. Et je vous libère, Sarah. Merci pour votre intervention.
Alors, moi je voulais.
Et je veux qu'on parle de la violence des jeunes. Absolument.
J'entends bien ce que vous avez exprimé. Et c'est ce que j'ai défendu. On doit laisser les étudiants s'exprimer. On doit laisser les écoles intervenir sans leur faire des coups de pression, même si c'est des minorités. Ça a toujours été des minorités dans les universités. Mais c'est le principe de liberté de nos étudiants de pouvoir dire ce qu'ils pensent, de pouvoir défendre des causes, quelles qu'elles soient. L'essentiel, c'est qu'ils puissent avoir cette liberté. Par contre, elle est en train de dévier sur autre chose parce que j'ai entendu des choses et ça me revient et ça me travaille. Sciences Po n'est pas devenue une mauvaise école. Et ceux qui voudraient et qui commence à véhiculer le bruit de « Ah ben oui, c'est parce qu'il y a des jeunes des quartiers qui font leurs études à Sciences Po avec les accords des quartiers que Sciences Po, en gros, c'est devenu une poubelle. C'est un véritable scandale. C'est de la discrimination. »
Non,
c'est
je pense qu'on n'a pas dit ça.
Il y a ces propos-là, moi je les combats. Et je vais vous dire une chose. Quand, quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie, on a mis des drapeaux ukrainiens sur le fronton des mairies. Eh bien, quand un autre pays est attaqué, qu'on mette des drapeaux, ça ne me choque pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, et j'ai condamné les événements du 7 octobre, comme tout le monde, parce que pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la violence, mais il y a 34 000 personnes civiles, enfants, femmes, massacrées, et ça doit vous faire réagir.
C'est faux, ce que vous dites.
Réagir.
C'est faux.
Ça doit vous faire réagir.
Ah bon,
il n'y a pas de 34
000. D'où viennent vos chiffres?
34 000.
Et qui vous donne vos chiffres?
Eh oui, bien sûr.
Ça vient d'où? C'est la Hamas qui vous l'a donné, monsieur. Mais vous répétez la propagande du Hamas. Allez, citez-moi votre source, je vous défie. Je vous
défie.
Allez, citez-moi votre source.
C'est
messieurs,
simple, sur toutes les chaînes de télé, c'est
pas mal. Messieurs, la source.
Tu prends BFM, c'est les chaînes que tu aimes bien.
Messieurs, la source, ce n'est pas le sujet du jour. Je voudrais qu'on parle de la violence des jeunes. Gabriel Attal qui a reçu les chefs de parti. On en reparlera. Vous savez, c'est un sujet, je vous le dis, mais ne dérivez pas sur une question qui en amène une autre.
C'est ça.
Après, la violence des jeunes. Parlons-en justement, puisque Gabriel Attal aujourd'hui, il a reçu toutes les familles politiques.
Oui, la violence aujourd'hui de nos jeunes est vraiment très inquiétante. Je pense que au sein de nos auditeurs, je suis persuadée que je suis persuadée aussi que de nombreuses familles subissent ce phénomène qui est grave, qui est un phénomène de société, de notre société, où il y a une faille dans la matrice. Et cette faille, elle vient forcément, eh bien, soit des réseaux sociaux, soit du milieu, en fait, social dans lequel vit l'enfant, au point d'arriver aujourd'hui à retirer la vie gratuitement. C'est-à-dire que cette violence aujourd'hui se traduit par la mort. Est-ce que vous imaginez? Et ça ne choque personne.
On fait un tour de
table. Tous les jours, on entend. Tous les jours. Et ça ne choque personne.
Jonas, vraiment, en peu de temps, s'il vous plaît.
Très rapidement. Madame, votre constat est juste. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous appartenez à une formation politique qui a supprimé toutes les formes de sanctions depuis qu'elle est arrivée. Elle a supprimé les peines planchers pour ceux qui sont les plus violents. C'était l'héritage de Taubira et Madame Belloubet. N'a rien changé. Donc en fait, vous laissez dans la rue les gens les plus violents, et après vous étonnez des conséquences. Et deuxièmement, vous n'acceptez pas qu'on réforme la minorité, c'est-à-dire qu'en gros, on sanctionne davantage des gens qui ont moins de 18 ans, pour qu'on ne laisse pas dans la rue des gens qui sont extrêmement dangereux, mais qui n'ont qu'un 16 ans. Donc moi, je partage votre constat, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas.
Ça a dû vous échapper, parce que depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons sorti tout un arsenal, justement. Ouais. Alors, nous ne sommes pas dans la sanction...
Mais d'un autre côté, la violence a explosé.
Nous ne sommes pas dans la sanction, mais dans l'éducation.
Très court.
Ça ne marche pas.
Nous battons encore de la violence, des agressions, des incivilités, des attentats depuis quelques années. C'est un constat, c'est ce qui fait la force du Rassemblement national. Nous devons oser l'autorité. Nous avons besoin d'autorité dans ce pays. Et le problème qu'on a, c'est le problème de notre justice. Tant que la justice ne fonctionne pas bien,
s'il vous plaît.
On est complètement désarmé.
Karim, très court, s'il vous plaît.
Voilà.
Karim, Alouache, très court.
C'est pour ça qu'on met les moyens qu'il faut.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Très court. Il y a eu 176 000 homicides commis par des jeunes de 15 à 29 ans dans le monde depuis le début de l'année. Ces 37% sont commis par des enfants. Moi, je n'ai pas une solution miracle. Ce que je peux vous dire aujourd'hui pour vivre et être concerné par ces quartiers et ces banlieues, la notion de vie ou de mort a disparu. Elle a complètement disparu. Mmh. Et il va falloir
Karim,
faire
je lance
chose.
Le quoi de neuf.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Il faut remettre
les parents aussi au centre. Il faut les aider à tenir leurs enfants.
Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informer. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, vous savez, je suis obligé parce que sinon on va se mettre à la bourre, mais grave, grave, grave. Là. Michel Taub, bonjour.
On a un agenda.
Michel Taub.
Farkan et bonjour aux auditeurs.
Allez, les débats sont passionnants ici, vous savez. Michel Taub, allez,
oui,
on va essayer.
J'entends des choses très intéressantes. Absolument. La personne qui dit qu'il faut redonner l'importance à l'autorité
parentale.
Est-ce qu'il faut éduquer les enfants?
Allez,
absolument.
Je vous lance parce que vous êtes éditorialiste, vous êtes directeur d'opinion internationale et vous devez nous parler. Votre billet d'humeur tourne autour de Raphaël Guzman et évidemment ce qui peut nous attendre dans le cadre de cette campagne élections européennes.
Alors effectivement, il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin. Et d'ailleurs, j'appelle tous les auditeurs de BFM à aller voter le 9 juin. C'est un acte citoyen et l'Europe, c'est notre avenir, donc il faut aller voter. Mais je voulais insister sur effectivement la montée importante de Raphaël Glucksmann. Pourquoi est-ce que Glucksmann marque autant de points dans les sondages? En fait, il est en train de se passer la chose suivante, c'est que là, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que la Macronie est en train de s'effondrer. Et je pense que fondamentalement, tous ceux qui ont mis leur espoir dans la Macronie sont en train de revenir au bercail, et près de la moitié, peut-être plus de la moitié d'ailleurs, des macronistes venaient de la gauche. Et donc, je pense que les déceptions multiples qu'a suscité Emmanuel Macron font que beaucoup vont voter Glucksmann, c'est-à-dire le leader des socialistes, c'est-à-dire quelqu'un qui est perçu comme un humaniste. Donc, la Macronie est en train de se vider, de sortir de son lit, et beaucoup de macronistes revenir au bercail, celui de la gauche classique. Et il y a un deuxième phénomène, c'est que Raphaël Glucksmann est en train de prendre sur les écologistes beaucoup de place. Il a une dimension écologique dans son programme, et pour cause, parce que Europe Écologie Les Verts, qui est en apparence écologiste, mais qui sont en fait, selon moi, des véritables pastèques, c'est-à-dire vert dehors, mais très rouge à l'intérieur, eh bien, beaucoup d'électeurs sont déçus par le programme de Marie Toussaint. Et d'ailleurs, je me permets de citer, il y a un autre candidat qui est en train de monter, qui s'appelle Jean-Marc Governatori, le président d'Écologie au Centre, et qui a un vrai programme écologiste, pragmatique, efficace, et qui, à mon avis, gagne à être connu. Mais pour ce qui est de Glucksmann, il est en train de prendre sur les déçus de la Macronie et sur les déçus de l'écologie d'Europe Écologie au Centre. Et c'est pour ça qu'il progresse. Mais au final, c'est les électeurs qui auront le dernier mot le 9 juin, et il faut aller voter le 9 juin. Voilà ce que je veux dire, cher Adil.
Merci, mon cher Michel Taube. Merci infiniment. À lundi prochain, sans faute, pour un autre billet d'humeur dans le Quad 9. Merci, Michel.
Merci, bonne soirée.
Et il a raison de nous le rappeler. Il faut plus que jamais aller voter. Voter, voter, voter et encore voter. Merci,
bien
Rachida
sûr,
Kaout.
C'est plus. Aujourd'hui, en fait, il faut que tout le monde aille voter. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, elle n'est plus à nos portes. Elle est au sein de nos foyers.
Merci,
sur
Rachida
nos paliers.
Kaout. Merci, Jonas Haddad. À bientôt.
Voter pour garder la cohésion du pays.
C'est ça.
C'est bien.
Voter pour vous faire respecter par les personnalités politiques.
Un vote est un acte citoyen. Votons.
Exact. Merci à vous, Kat. C'était.
Et on ne lâche rien sur.
C'était costaud aujourd'hui.
Attention.
Hein. C'était costaud aujourd'hui, les amis. Hein. Merci à la patience de notre réalisateur Solal.
Oui,
Solal, il en pouvait plus. Solal. Il en pouvait plus, le pauvre Solal. Allez, il en pouvait plus.
Moi, j'ai joué. Solal, j'ai rien fait.
Bilal Time Sport. Ensuite, c'est Vanessa 21h. Kim demain matin. Demain avec autant de plaisir. Mais surtout, vous savez ce qu'on dit ici tous les jours.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.